Pas plus haut que le bord.
C'est comme...
C'est clair, alors,
ça va aller très mal.
D'accord avec toi.
Et totalement...
Ah, et là, j'assume.
Pas plus haut que le bord.
Notre premier titre, c'est donc Monsieur Cole.
Mais pourquoi t'en veux à Monsieur Cole? Dis-nous.
Comment?
Pourquoi tu en veux à Monsieur Cole?
Ah, j'en veux pas du tout à Monsieur Cole. C'était très gentil. C'était une chanson en hommage à Monsieur Cole.
Au café central de la place Corvis, Monsieur Cole et Maurice, l'organiste, le chouchou de ces dames de Suisse. Quand il jouait Riquita, petite fleur de Java, j'avais le feu à la piste. Sur la piste de danse, au tournoyer, les vagues autour des dames de Suisse. C'était un expert du baloche. Un héros des planches, un type qui jouait les mains dans les poches. J'en avais pas deux comme lui pour jouer sans partoche. Monsieur Cole, Monsieur Cole, alias Monsieur Double Croche.
Bravo, c'est super sympa votre truc. C'est parce que moi, comme j'y connais rien en musique, j'ai toujours truc pour musique. Hein. Mais bon, chacun son truc, justement. Oui, je sais, je me ridiculise aussi en disant ça. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous?
Je t'inviterai à un concert de Marilyn Manson bientôt.
Ouais, mais je suis pas sûr d'aimer autant. Moi, ça me plaît beaucoup plus. Hein, ça.
Ah, c'est moins bruyant, hein, ça.
Bon.
Au grand regret de CSP.
Donc monsieur Cole Fan Club reviendra tout à l'heure en fin d'émission pour une ultime chanson et ils nous diront leur date. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup des dates. Je crois qu'il y en a qu'une seule avant la fin de l'année. Mais bon, c'est un groupe qui tourne pas mal sur Toulouse. Alors soyez à l'écoute de ce groupe-là, assez surprenant, vous avez pu voir. Mais bien sûr, CSP, je crois que ça va être à toi. Et t'as des choses à nous dire. Mais,
oui.
Mais d'abord la cavalerie, quoi.
Il va exploser l'oreille.
Ouais. Oui.
Mais je t'écoute. Mon cher CSP.
Bon, c'est pourri la France, non?
Oui, oh ben oui.
En ce moment. Enfin, depuis le 6 mai 2007, non? Enfin, avant déjà, si, mais maintenant encore plus. Parce que bon, pendant que tout ce qui est le plus faisandé dans ce pays se repète d'un débat sur l'identité nationale qui n'intéresse que. Pendant que la droite charognarde s'emploie consciencieusement à fabriquer des cons. Inculte et fier de l'être en supprimant l'histoire de certaines filières scolaires pendant ce temps-là. Donc, en Amérique latine, on construit le socialisme du 21e siècle. Ah, voilà. Putain, c'est le contraste. Vous voyez,
oui.
Socialisme du 21e siècle, là-bas, le soleil, les filles en bikini, ici il pleut.
Oui, enfin, excusez-moi, mais.
Ils sortent au feu.
Ben, si tu veux, les filles en bikini sur l'altiplano, je suis pas sûr, mais bon.
En bikini avec un bonnet en poil de lama.
Voilà, c'est plutôt ça.
Où ça, le bonnet en poil de lama?
Peu importe. Et vous, Morales? Et donc réélu dans un fauteuil, et c'est une bien bonne et belle nouvelle que voilà. Enfin, bonne, pas pour tout le monde, puisqu'il semblerait bien que le traitement de l'information ne soit pas accueilli avec liesse partout. Ainsi, à la rédaction de Libé en ligne, ça laisserait assez tiède pour ne pas dire bof. Voyons de plus près. Je cite.
Oui, que nous dit Libé?
Des conneries.
Ah.
La recette du président sortant, la promulgation d'une nouvelle constitution, nanana, c'est surtout le mot recette. Qu'il faut dire, il a été réélu, il a une recette. On note donc ici qu'il ne saurait nullement s'agir d'un ambitieux programme politique de refondation de toute une société sur des bases de solidarité et d'égalité, mais de recettes.
Oui, bien sûr.
Comme en publicité, des recettes.
Oui, on a bien compris.
Autant dire des gris-gris.
Oui, quand c'est une vraie démocratie, ça devient des recettes. Hein,
voilà.
C'est bizarre.
C'est des gris-gris magiques censés garantir à Evo, qui est beau, une popularité auprès du bas peuple, lequel, se sentant flatté, ira docilement revoter pour son bienfaiteur. Bon, le rédacteur de l'article ne dit nullement qu'on parle ici de populisme, comme vous y allez. Il se contente juste d'y penser très fort. Mais. Une phrase interpelle dans l'article. Il est dit, je cite, une série de nationalisations dans des secteurs clés comme les hydrocarbures, blablabla, redistribution des dividendes. Or, dans la même phrase, il y a nationalisation et dividendes. Ah. Et là, on hausse le sourcil. Pourquoi?
Tu vas nous expliquer.
Oui. Mais essayez de deviner, faites un effort.
Non, mais non, on essaye de hausser le sourcil, mais dans une même phrase.
Déjà, il y en a un qui hausse un sourcil.
Oui.
Merci, Manu.
Pourquoi?
Parce que ça fait une trentaine d'années à peu près que les sorciers vaudous néolibéraux tournent autour des totems sacrés de la dérégulation, psalmodiant que jamais au grand jamais de service public il ne faut, puisque ruiner le pays, ça va.
Oui.
Ça vous parle.
D'accord, tu nous parles des plans d'ajustement structurel.
Or, là, on voit qu'étrangement, nationalisation et dividendes sont raccolés dans la même phrase. Qu'est-ce à dire? Et notre étonnement de ne plus connaître les limites à la stupéfaction quand on lit plus bas, tenez-vous bien, c'est sidérant, grâce à l'augmentation des recettes pour l'État suite aux nationalisations, ce qui signifie donc que l'État a donc augmenté ses recettes grâce à des nationalisations et non pas à des privatisations, c'est-à-dire un petit peu tout le contraire que des abrutis vous expliquent depuis ce qui semble une éternité.
Oui. Tout d'un coup, l'argent revient à l'État au lieu de partir dans les poches des multinationales.
Et des actionnaires.
Comme c'est étrange.
Voilà. Et bon, bah, partant, on aimerait bien en savoir un peu plus tout de même sur ce pareil merveille qui brise la nuque monétariste de tant de nuisibles pontifiants. Non,
c'est bon. Oui, ah ben là, on trépigne de
patience. Non, mais qu'il leur brise la nuque symboliquement. Hein? Pour le moment.
Il me fait peur quand il me regarde comme ça.
C'est un garçon dangereux, c'est pour ça. C'est un garçon dangereux.
Alors, autre extrait. Pour l'opposition, en revanche. On a un petit peu parlé de ce qu'il y avait de bien en Bolivie, et après, blam, les deux tiers de l'article sur l'opposition. Pour l'opposition, en revanche, le populisme a pris le pouvoir. Ah, voilà, ça c'est fait. Citation. Esperanza Rada, candidate à la députation pour le parti de centre droit Unité Nationale. Je cite. Les indigènes ont bien peu de conscience, on leur donne quelque chose, ils acceptent. Nous autres de la classe moyenne, en revanche, nous avons encore la tête pour penser et nous ne devons pas nous tromper une fois de plus. Populisme, ça y est, il a réussi à le caser en citant la candidate de droite malheureuse. Et je veux faire une parenthèse.
Oui.
C'est juste moi ou candidat de droite malheureux, c'est joli à entendre. Non. Candidat de droite malheureux.
Sur la Bolivie, quand même, faut quand même préciser qu'il n'y a pas si longtemps que ça, justement, cette droite malheureuse souhaitait la scission de la Bolivie,
hein, oui,
en deux régions autonomes, la région des Andes pauvre et la région de la plaine beaucoup plus riche où là
et blanche
bien entendu,
puisque
quand même pour ces gens-là, les Indiens sont des sous-hommes, hein, faut pas oublier. Et Evo Morales qui vient de
c'est ce qu'elle dit en substance,
ouais,
la dame.
Ouais.
Esperanza Rada, qui est une sacrée radasse. Hein. Là, je fais un peu du Lorenzo. Oh,
non, je suis pas
sous Lorenzo.
C'est pas vrai.
Si, parfois. Bref, vos gueules.
C'est même pas la peine de faire ça.
Si, la preuve, ça marche, il a boucle. Hein. Bref, Esperanza Rada a l'air largement aussi décomplexée qu'un maire UMP. De ce maire UMP qui dit qu'il y en a déjà 10 millions qu'on peut rien foutre.
Oui.
Vu la considération dans laquelle elle met les indigènes du cru, qui sont dégénérés, puisqu'indigènes.
Oui.
Comme ça. Et, un peu plus loin dans l'article, au lieu que de tenter de damnation à la fin expliquer le quoi, du comment, du qu'est-ce qui se passe dans ce pays qui est si loin, notre journal bute de redonner la parole à un autre opposant. Vu qu'une seule, ça suffisait à l'évidence pas. Bon, le candidat de la droite libérale, Manfred Reyes Villa, a appelé à faire barrage au projet totalitaire du MAS, le parti présidentiel, et dénoncer l'existence d'une fraude organisée.
Bien sûr.
Reyes Villa assure qu'il rétablira l'état de droit s'il est élu, ce qu'il n'a pas été élu. Et c'est toujours moi, mais candidat de droite perdant, c'est sympa aussi. Non. Je le refais. Candidat de droite perdant. C'est bien.
Oui, moi j'aime bien.
Je kiffe ça.
Oui.
Bon, donc de toute façon, où on voit donc que dès qu'on se situe très légèrement à la gauche de François Bayrou, n'importe qui vous invariablement accuse de
gauchiste.
Non, pire.
Non. Ah.
De totalitarisme.
Ah oui.
Oui.
Populiste.
Bravo. Et en même temps, bon, c'est facile puisque qu'on est contre le néolibéralisme, on est obligatoirement pour le goulag. Ce qui finit par, à force d'essayer de discuter avec les teckels qui braillent ce refrain sans cesse et sont inaccessibles à la raison et au dialogue, finirait effectivement par faire trouver la Loubianka et les vastes espaces désolés de Sibérie, très sympathiques pour certaines personnes. Je ferai d'ailleurs prochainement un billet sur la nécessité du séparatisme de la région PACA, où il faudra mettre de force tous les gens de droite et faire ça, surveiller ça par des drones. Mais ça, c'est un projet que je développe.
D'accord, oui.
Avec des barbelés autour pour les empêcher de sortir.
Oui.
C'est une drone d'idées.
Normalement, c'est une émission démocratique. Hein, mais
démocrate quoi ?
Non, oui, laisse tomber.
Laisse tomber. Donc, résumons. Dans un obscur pays d'Amérique latine, loin, là-bas, élu un métec qui fait rien qu'à foutre le privé dehors et nationalise à tour de bras, y compris de force, pour redistribuer la population et emmener son pays vers le socialisme du 21e siècle, et à la rédaction de Libé en ligne, un journaillon fronce le nez et que dit tout de même les choses sont plus complexes. Rien de nouveau.
Oui, mais
certes. Fort heureusement, le peuple bolivarien. Lapsus.
Oui, lapsus.
Mais non, mais en fait non, non, parce que le Bolivien est quelque part bolivarien dans le fond de son cœur.
Bah de toute manière, Evo Morales se proclame en faveur de la révolution bolivarienne initiée par Chavez au Venezuela.
Mon parrain en sucre.
Bien sûr.
Donc le peuple bolivien se branle éperdument de ce que pensent les journaux de centre-droit français et réélit Evo qui est très beau. Et pour finir, une question. La carte de membre de la 5e internationale, on la prend où?
Alors pour ceux qui avaient oublié d'écouter l'émission précédente, effectivement, on s'était fait l'écho de la volonté de Hugo Chavez de développer une 5e internationale après la 4e internationale, maintenant la 5e internationale, et donc ça se discute. Hein, c'est...
Ah non, mais moi je suis pour. Hein. Oh là là.
C'est des choses qui se discutent. Sur la Bolivie, quand même, je tiens à vous rappeler, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Alors, d'abord, Evo Morales, il a été élu au premier tour avec 62% des voix. Mais chiffre encore plus intéressant, l'abstention,
6%.
6% d'abstention, c'est-à-dire que Les voilà. gens, ils sont tous allés voter, les gens.
Ça veut dire qu'il tient trop fort, il a truqué les élections, vraiment. On a...
Alors là, soit il a super bien truqué les élections.
Quel magicien.
Mais là, il est magicien parce que franchement, quand on connaît ce genre de pays, on imagine que ça peut pas s'organiser à ce point pour que ce soit aussi bon, quoi. C'est que les gens, du peuple, tout simplement, ils ont voté pour Evo Morales parce qu'il les représente véritablement. La majorité sont des indigènes de la Cordillère des Andes. Donc, Evo Morales, il est quand même le fruit du syndicalisme et c'est pas un homme politique à la base. C'est quelqu'un qui arrive des luttes sociales. Hein, qui s'est bagarré pendant des années et qui arrive des luttes sociales et il n'arrive pas comme ça par hasard et c'est pas
en fait Morales Lula. C'est un Lula qui aurait pas mal tourné.
Oui
parce
mais...
que Lula vient de là aussi.
oui c'est vrai,
là je vais les arts aussi.
Oui, ah, lui qui a si, mal tourné Europe, hein, ouais. pour le coup. Attends,
devant moi
des traîtres
car peut-être mais Bon, c'est fait pas du révisionnisme comme ça pour lui.
Il y avait de véritables résistants dans ce pays là.
Non, mais Lech Walesa, de toute manière, effectivement, c'était un résistant à son époque.
Hein. Ensuite, ce qu'il est devenu.
Mais pour revenir juste, pour terminer sur la Bolivie, puisque maintenant, il a la majorité.
On voit tout. Ouais, et puis surtout...
Comme chacun le sait.
T'as vu?
Oui,
t'as
oui.
Aussi
oui, et je pense que Laurent va nous en dire deux mots de ce monde imparfait. Parce que Laurent est le spécialiste de l'imperfection du monde. mais dans sa bouche, les mots sont tellement fleuris que bon... Ça passe très facilement.
T'es amoureux de moi.
Ça devient parfait. C'est comme.
Alors que se passe-t-il en ce moment, Laurent?
Ben en ce moment, je me sens là et fatigué. Alors est-ce ce temps maussade qui étreint mes jours, encombré par tant de soucis aussi quotidiens que futiles? Est-ce un mauvais virus qui traîne et m'entraîne vers les chemins calomnieux de la mélancolie? Ou est-ce parce que j'ai appris que Luc Chatel veut mettre sa grosse hypoténuse dans le triangle isocèle des terminales sans que cela fasse toute une histoire? Car l'histoire, comme la littérature, ne fabrique pas de vaccin, en comprenant qu'une société inculte se gouverne plus facilement. Je me sens fatigué là et ailleurs. Ceux qui attendent de moi ce soir une énième chronique aux blagues lourdes et réchauffées, des poils, des couilles et des boutins ch'tancules ne n'auront pas pour leur argent.
Oh,
vous pouvez passer votre chemin, changer de station. Sur Rire et Chanson, doit bien y avoir un sketch de France Dubosc aussi pathétique que mon état de ce soir. Et pour ceux qui sont ici au Petit London, occupez-vous de vos verres et de vos éthyliques espoirs. Mais bon, ça, j'ai pas besoin de vous donner l'idée. C'est pas avec du jus d'orange que Yann fait son chiffre tous les soirs ici. Alors, pour compléter ma panoplie de l'âpre chroniqueur acariâtre, ce soir, j'avais décidé de vous parler philosophie. Je me suis dit, pour péter la bonne ambiance de votre mardi soir qui jusqu'alors vous semblait jovial et prometteur, il n'y a pas mieux.
Il
n'y a pas de raison non plus que je sois le seul à en chier ce soir. Hein. Mais voilà donc ce week-end chez mon buraliste préféré pour acheter le tout dernier Philosophie Magazine dans lequel j'avais repéré un article qui paraissait fort intéressant sur feu Claude Lévi-Strauss décodant le mythe de Noël. C'était dans l'actualité. Alors déjà, acheter Philosophie Magazine chez son marchand de presse, ça s'assume beaucoup mieux que s'offrir Sodomie Magazine. Non, mesdames et messieurs, n'éteignez pas votre radio pour enfiler une veste et aller acheter le dernier numéro de cette revue. D'une part, à cette heure-ci,
laquelle
votre magasin, Sodomie Magazine, votre magasin est fermé. Et d'autre part, ce magazine n'existe pas.
Pas encore.
Pas encore en tout cas, mais pour les trous du cul, il y a déjà Minute et France Dimanche, entre autres. Messieurs, alors monsieur, vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche Philosophie Magazine. Faut le dire fort, évidemment. Et je l'ai fait à la place du donjon, en plein centre-ville, un soir gavé de monde. On n'a pas l'occasion de se la péter tous les jours, même si ça coûte 5,50€.
Ouais, ouais.
Philosophie Magazine? Oui, c'est ça. Philosophie Magazine, le magazine qui parle de la philosophie, fait par des philosophes pour des philosophes. C'est en bas, monsieur. Voilà. Et là, de suite, tu sens tout le respect d'une foule jalouse et conquise, cette foule téléprochienne, rock'n'follesque ou VSDN, tu vois. À mon retour, donc, j'ai lu Philosophie Magazine, j'ai lu Claude Lévi-Strauss. Cette page de Claude. Alors, Lévi-Strauss, j'en étais vierge. Le seul Lévi-Strauss qui m'avait un peu dévergondé, c'était un vieux jean trop serré qui me rentrait dans le cul quand je n'avais plus rien de propre à me mettre, tu vois.
Oui, mais oui.
Je pouvais faire le malin face à la vendeuse du donjon, mais quand j'ai fini cette page, je me suis dit, mais comment je vais faire pour parler de cet article, pour le synthétiser, pour le digérer, alors que je ne suis même pas armé pour pour tout comprendre. Ça remet bien en place dans son ego de lire Lévi-Strauss. Je me suis senti con comme une Miss France face à une phrase de plus de 5 mots. Toi complètement con.
Mais ah, j'ai pas... En plus, t'as regardé les Miss France.
Non, j'ai pas regardé.
Allez, bah.
C'est ça. Mais j'ai pas baissé les bras. Je me suis dit que dans cette émission, au milieu des ébats politiques, des éclats de musique, des débats érotiques, il fallait que la culture lutte. Pour ce jeu de mots, une petite pipe. Hourra. Je suis allé sur des forums pour décrypter un petit peu Lévi-Strauss. Mais quand tu as des mecs qui écrivent des trucs comme « Pour être viable, une recherche tout entière tendue vers les structures commence par s'incliner devant la puissance et l'inanité du fait. » Alors tu prends deux aspirines, tu songes à te droguer et tu te demandes si les mecs qui écrivent de tels trucs le font pas exprès juste pour se la péter, juste pour briller parce qu'ils ont pas assez d'amis. Et ce n'est pas étonnant qu'ils n'aient pas assez d'amis si leur cœur est aussi inaccessible que leur discours.
Et ils ont surtout si chiants quoi.
Nous sommes cernés, le gouvernement nous prend pour des cons avec des mots faciles et les scientifiques et les intellectuels suffisants nous font passer pour des cons avec des phrases impossibles. Bref, pour écrire ma chronique, je me suis quand même accroché. Car contrairement à monsieur Nicolas S., j'écris moi-même tous mes seuls papiers et je ne fais pas de copier-coller.
Oui.
Donc Claude Lévi-Strauss, qui nous a quittés le mois dernier, est un anthropologue. Anthropologie vient du grec anthropos, qui veut dire être humain, et logos, la science. C'est donc la science qui étudie la structure de l'être humain et l'histoire physique de l'espèce humaine. Vous voyez, c'est pas difficile d'être clair, il suffit juste d'expliquer un petit peu aux gens.
C'est facile, c'est trop facile là-dessus.
Dans cet article écrit en 1952, on va faire court avec ce que j'ai pu comprendre, ouais. Il explique la nécessité. Oui, c'est exactement. Il explique la nécessité de Noël. En gros, si les adultes aiment faire des cadeaux aux enfants. Si les adultes aiment faire croire aux enfants que les cadeaux de Noël viennent de l'au-delà, c'est parce que ces objets doivent circuler symboliquement des morts vers les morts, les enfants jouant le rôle des morts. C'est pas facile déjà.
Non, ouais, non, c'est pas facile.
Alors tu m'étonnes que je me sente moyen après avoir vu Lévi-Strauss, tu vois. C'est pas super gay quoi. Mais je continue. Noël qui permet un équilibre entre enfants et adultes, ceux qui croient et ceux qui ne croient plus, est un bel hommage à la douceur de vivre, selon Lévi-Strauss, laquelle consiste à être en paix avec la mort. Mmh. Alors je sais que tout cela est aussi positif qu'ennuyeux, sauf qu'en 1952, on n'avait pas de problème de climat, on n'avait pas de Copenhague, on n'avait pas l'autre Noël, ma mère. Noël n'est plus bonne presse chez les écolos. Les jouets tout électroniques qui prennent pour la grande majorité l'avion de Chine pour faire plaisir aux enfants, c'est pas bon. Les guirlandes féeriques et joyeuses de votre jardin, c'est pas bon. Le trafic automobile dans les villes augmente de 50% à la période des Noëls, c'est pas bien. Manger du foie gras pas bon et pas cher qui vient de Hongrie, c'est nul.
Ah ouais.
Heureusement pour ma santé mentale, je ne lis pas que Philosophie Magazine. Et Que choisir de ce mois-ci nous apprend comment consommer écolo à Noël, en nous conseillant d'acheter un sapin qui pousse à côté de chez nous et en le replantant dans notre jardin pour les années d'après, puisqu'on le sait, tout le monde a des sapins à côté de chez lui et un jardin dans son appartement. D'acheter des jeux sans pile avec du papier recyclé pour occuper les longues veillées de Noël que l'on passera éclairées par 3 bougies bio. Ne pas manger de la viande rouge car il paraît que les bovins émettent beaucoup plus de méthane que la volaille.
Ah.
Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Là, j'ai moins compris le conseil parce que je pensais justement que plus on bouffe les vaches, moins elles seront nuisibles en fait. Donc, alors, que choisir, je vais leur écrire. Sont donc conseillés les huîtres et la dinde, encore une occasion pour Bachelot de faire parler d'elle. Et j'en passe et j'en trépasse. Encore une fois, ça va être à nous, pauvres gens, aux pauvres ressources, de payer cash le désastre d'une économie mondiale désinvolte et crapuleuse. On est en train de nous voler la magie de nos rêves d'hiver qui touchent encore les souvenirs des grands qui ne veulent jamais voir mourir en eux l'enfant qu'ils étaient et qui les émeut encore. On est tous encore des enfants de croire que Copenhague est le Père Noël de notre futur climatique. Tant qu'il faudra s'appeler Rémi Julienne pour rouler en vélo à Toulouse sans se tuer et que personne n'aura les couilles pour faire enfin un vrai projet de transport, qu'on laissera rouler des Porsche Cayenne sur les pistes ensablées de la rue Alsace-Lorraine, tant que l'argent et les intérêts économiques d'un monde capitaliste seront plus importants que sa virtuelle philanthropie, ce sera toujours à nous de culpabiliser en nous ressassant les petits gestes quotidiens à faire pour sauver la planète pendant que d'autres s'engraissent et nous enfument en fermant les yeux, ceux-là même qui nous donnent des ordres au nom de la planète. C'est pas avec des résolutions danoises qu'on y arrivera, mais sans doute avec une révolution. De De toute façon, à Copenhague, tous ces scientifiques vont nous parler en langage scientifique. Ils vont nous enrhumer, nous faire mal à la tête. Et moi, je vais pas aller bien encore et je vais déprimer encore tout le monde avec mes papiers. Mais je m'en fous. À Noël, j'ai commandé de la vodka qui vient de Russie en avion et une PlayStation 3. C'est pas super écolo, mais putain, ça va me détendre. Quoi.
Bravo. Merci, Laurent. Voilà, hein. Après tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur Copenhague? Vous avez suivi un petit peu l'actualité?
Non.
Bah, il n'y a pas besoin de la suivre.
C'est toujours ce côté médiatique overdose.
Tout à
qui
fait.
Présente, alors en l'occurrence, un G8 ou un G20 ou un Copenhague ou un Grenelle quelconque qui va être la the solution à tous les problèmes du truc. Et au bout d'un moment, enfin moi je décroche complètement, je peux plus quoi, je peux plus. C'est
juste un chiffre et puis on arrête là. Juste un chiffre du GIEC qui est donc l'organisme scientifique, enfin les scientifiques du monde entier qui se réunissent et qui travaillent sur le réchauffement climatique. En 2050, si on baisse de 85% les gaz à effet de serre, la France, l'Europe, l'Union européenne propose 20%. Hein. Donc 85%, on a quand même une augmentation de 2 degrés. De la température et de 1 mètre le niveau des océans,
de l'eau, ouais.
Ce qui noie à peu près 6 millions de Bengalis. Voilà quoi.
Tiens, on va continuer parce que, en plus, aujourd'hui, j'ai lu une interview de Frédéric Lordon qui est économiste, entre autres, qui a publié des livres et qui est écrit dans Le Monde Diplomatique. Où je vous résume en substance, on est qu'au tout début d'une vaste crise financière qui va durer entre 15 et 20 ans. Donc les gens, il faut tenir encore 20 ans et les survivants, ça devrait aller mieux.
Bien, et ben voilà.
On aura 2012 avant.
Voilà.
Joyeux Noël.
Ben là-dessus, hein.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Et ah, surtout, c'est gay ce soir.
Et on va laisser.
Bonne fête.
On va laisser.
Heureusement qu'il y a l'économie sociale et solidaire.
Voilà.
Merci Manu.
Merci Manu. On va laisser la place à Monsieur Con Fan Club et peut-être nous rappeler votre prochaine date de concert, messieurs.
Alors, c'est vendredi. Au comptoir à 19h30, allez Jean Jaurès.
Vendredi à quelle heure?
Jean Jaurès. À 19h30, mais bon, 20h, 19h30, 20h.
Eh bien, nous vous écoutons.
Un petit texte que j'ai écrit. Quand j'étais étudiant à Manchester, il y a... Dans ma chambre d'étudiant, 9e étage, avec vue sur le périph', il pleutait, il y avait du brouillard, la gonzesse faisait les parterres.
Bravo, merci. Bravo, merci. Bravo. Donc rappelez-nous la date à laquelle vous jouez.
Ouais, vendredi 11 au comptoir, allez Jean Jaurès.
Voilà. À 20h30
19h30,
20h30 jusqu'à
19h30. Ouais, décidément.
Jusqu'à point d'heure. 19h30, non ?
Voilà, ben merci. Merci d'être passé.
De rien, de rien.
Merci beaucoup.
C'est bien aimable.
C'est bien aimable. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur, réécouter l'émission sur papluo.blogspot.com. Également, nous revenons en général tous les 15 jours, les 2e et 4e mardis du mois, de 20h à 21h, en direct et en public depuis le bar Le Petit London. Voilà, c'est une émission qui se passe toujours comme ça, avec des aléas techniques, bien sûr. Nous nous en excusons, mais c'est...
Quand Christophe dit aléa technique, il veut dire amateurisme revendiqué. C'est pas la même chose. Oh, vous l'avez compris.
C'est-à-dire qu'il parle d'économie sociale et solidaire.
Voilà, et d'économie sociale et solidaire. Merci à tout le monde, et à très bientôt.
De rien, Christophe.
Dans 15 jours.
Avec plaisir.
On va faire la fête dans 15 jours.
Oh, c'est con, c'est bon, finalement.